franceinter.fr.
Bonjour à tous. Le fleuron de la flotte française, le porte-avions à propulsion nucléaire Charles de Gaulle, vient de terminer une mission de 3 mois et demi en Méditerranée orientale. Intégré au dispositif allié de lutte contre l'organisation État islamique, ces 24 chasseurs bombardiers Rafale, qui peuvent porter l'arme nucléaire, ont multiplié les opérations au-dessus de l'Irak et de la Syrie. Mais pendant 18 mois, le temps d'une grande révision, la marine française va se trouver privée de son élément le plus puissant. De la cale jusqu'au pont, tout le bateau va être inspecté, révisé, modernisé. Juste avant son départ du théâtre d'opération, Pascal Dervieux et Arthur Gerbeau ont passé plusieurs jours à bord grâce à l'hospitalité de la Marine nationale et donc sous son contrôle, aux côtés des 2000 hommes et femmes de l'équipage. Les opérations en Irak et en Syrie vont se poursuivre grâce aux unités de l'armée de l'air implantées sur les bases du Levant. Il n'en reste pas moins que l'absence du Charles de Gaulle pendant plus d'un an sur le terrain relance la polémique autour de la nécessité, ou non, pour la France de se doter d'un second porte-avions. Relance aussi le débat sur l'intégration de nos armées dans un système de défense européen, alors que l'élection de Donald Trump laisse planer la menace d'un infléchissement de la politique des États-Unis au Proche-Orient. Charles de Gaulle Terminus, un reportage de Pascal Dervieux et Arthur Gerbeau.
Interception, le magazine de la rédaction.
Rafale 39. À l'ordre, est-ce que je sortais les suspensions?
Oui.
Suspension très haute, on va juste ouvrir les batteries.
Bien.
Qu'est-ce que tu fais? Vers partout?
Bien, c'est vers partout. Par réponse, réalisation, vers
Pouvez-vous nous expliquer en deux mots où on se trouve ici?
Alors ça, c'est la cabine de tir de la catapulte avant, avec l'ingénieur de car catapulte et le cabineux.
Quel est votre rôle?
De faire la séquence de tir de l'avion. Donc j'ai 3 boutons, le pas répond, le pas partout et à la fin le feu. Comme si c'est le lancement, on baisse le pavillon vert. Quand il touche le sol, c'est le signal que je suis autorisé à faire feu. À 35, on a 2 tirs en personnel. Et après, nous, on aura 1 tir en personnel et 6 tirs organiques.
Alors, on va se planter les suspensions.
Oui.
Suspension très haute, on va juste enlever les batteries.
Bien.
Interverrouillage.
Deux secondes. Il aura fallu 2 secondes pour catapulter les 20 tonnes d'un Rafale armé partant pour une opération au-dessus de l'Irak. Le bruit de la post-combustion qui arrache aux 2 moteurs de l'appareil une poussée maximale est insupportable, même avec des protections auditives.
Vous voyez ici, c'est beaucoup plus venteux, c'est beaucoup plus bruyant. Sur le plan d'envol, on crée toujours du vent pour aider à la portance des avions, pour quand ils se posent et quand ils décollent. Donc en permanence, on créera à peu près 50 km/h de vent sur le pont d'envol. Donc là, l'avion qui va se poser, vous voyez, il vient de passer sur le côté du porte-avions. Après, il va tourner là, il passe devant le porte-avions. Il va revenir le long du porte-avions sur bâbord. On appelle ça, il sera vent arrière. Et c'est là où il va sortir son train, sa crosse. Il va se mettre en position d'appontage. Et après, il va faire un couple derrière pour se poser et prendre un des 3 bras. Il y a moins de vent dans le coin. Dès qu'on est derrière à l'abri de l'îlot, vous avez vu, le vent, il est tout de suite masqué et on est plus à l'aise. Bon, c'est bon, vous avez pu voir l'appontage, hein, vous avez vu le circuit de l'avion, le fait qu'il se pose, et donc quand il prend un brin, en moins de 100 mètres, il est arrêté. Donc il passe de 250 km/h à 0 en moins de 100 mètres.
Fusée succion, ça va succion.
pouvez nous dire où on se trouve là?
Alors nous sommes actuellement au poste de commandement du pont d'envol du porte-avion Charles de Gaulle.
C'est quoi, c'est la tour de contrôle du bateau?
C'est là où sont les directeurs de pont d'envol, donc les chiens jaunes. Et c'est de là qu'ils dirigent le pont d'envol.
Pour la mise en œuvre des avions sur le pont d'envol, nous travaillons à deux équipes. On se relève toutes les 4 ou 6 heures, et puis ça, 24 heures sur 24, pour tenir le temps qu'il faut. Moi, je suis justement le chef d'une de ces deux équipes.
Vous êtes habillé en jaune, c'est la couleur traditionnelle?
Oui, ces équipes de pont d'envol sont ce qu'on appelle souvent les chiens jaunes, mais il n'y a pas que des chiens jaunes. Les chiens jaunes, c'est les cadres de ces équipes. Et puis après, il y a tous les maillots bleus que vous avez pu voir et que vous pourrez voir sur le pont d'envol, qui sont, nos bras armés pour faire le travail.
C'est un travail qui demande beaucoup de minutie. Ce matin, on a vu par exemple que plusieurs décollages ont été annulés parce que certains de vos hommes ont décelé des problèmes de calage, de crosse, de choses comme ça. Il faut être très très minutieux.
Alors, c'est une attention de tous les instants parce que le maître mot sur le pont d'envol, c'est la sécurité. La sécurité du personnel et du matériel. Donc oui, on arrêtera une procédure si on sent qu'il y a un danger ou il y a une prise de risque que l'on ne souhaite pas. C'est un ballet qui est bien, bien orchestré, bien organisé, chacun à sa place. Vous avez pu voir que sur le pont d'envol, il y a plein de couleurs différentes. Parce que suivant les phases, que l'on soit à la mise en route des avions, lorsque les avions roulent sur les catapultes ou au moment des catapultages ou des appontages, ça me permet, entre autres à moi, de savoir si les bonnes personnes sont aux bons endroits.
Le pont d'envol est un endroit extrêmement bruyant, donc ça veut dire que toutes vos consignes sont transmises par gestes très codifiés, tout ça. Hein.
Tout à fait. On prend l'habitude de travailler comme ça, d'un seul coup, on devient sourd. Parce que tous les réacteurs qui sont autour de nous, quand vous avez 10, 15, 20 avions qui démarrent, sur 65 mètres de large, hein, donc vous voyez que c'est pas très loin d'un bout à l'autre, et ben vous devenez sourd et donc tout est axé sur les gestes et les couleurs. Tous les ordres sont donnés par qu'on appelle des feux de commandement, des lumières, qui nous disent mettez en route les avions, faites rouler les avions, catapultez les avions. Et entre nous, on communique par geste. Un regard suffit pour comprendre ce qui se passe, on ne peut plus parler. Et si on vient à parler, dans ces cas-là, on est obligé de parler très fort. Et c'est pour ça que notre réputation va avec... on est des chiens jaunes parce qu'on a tendance à aboyer, à crier, à parler fort. C'est plus pour être entendu que pour gronder les gens.
Quel est l'incident que vous craignez le plus? Quel est le cauchemar que vous faites régulièrement, éventuellement?
Ce serait le crash d'un avion à l'appontage. Chaque fois que l'on met en œuvre des avions, il y a la vie d'un pilote et je dirais la vie de tous les gens qui sont sur le pont d'envol. C'est pour ça qu'on ne va jamais sur le pont d'envol l'esprit tranquille et on est toujours concentré sur sa mission parce que le risque est présent pour tout le monde. Si quelqu'un passe derrière un réacteur et se fait souffler, il va être brûlé. C'est un risque pour le personnel qui est autour, pour le pilote pendant les phases de catapultage et d'appontage parce que là, c'est des phases dangereuses. C'est pour ça que si vous venez aller sur le pont d'envol, vous verrez, on vous mettra en protection derrière des tracteurs de pont d'envol, des petits tracteurs de 7 tonnes qui seront votre bouclier en cas d'incident sur le pont d'envol.
On comprend qu'on va représenter le 35.
C'est la particularité du porte-avions. C'est à la fois un navire, mais aussi un aérodrome. Impossible de gérer le premier sans tenir compte du second. Les phases de catapultage et d'appontage des appareils requièrent des manœuvres très particulières.
Allez, vous le sortez, on le positionne derrière le 41.
Capitaine de frégate Sébastien, je suis l'officier de manœuvre du porte-avions. Alors ma mission, ça consiste à superviser, à organiser et à entraîner tout ce qui a trait à la manœuvre du bateau, à sa navigation, à son positionnement sur le plan d'eau et puis à l'activité en passerelle, là où nous nous trouvons actuellement.
Pour le néophyte, on se dit que l'idéal pour atterrir, c'est d'avoir un bateau fixe qui ne bouge plus. Est-ce que c'est ça?
Alors il faut qu'il soit stable et non pas fixe, parce que il faut qu'il soit stable, c'est-à-dire que l'avion puisse avoir une référence à laquelle se fixer, que la plateforme soit stable, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de mouvement de roulis sur un bord ou sur l'autre, ni de tangage. En revanche, il faut que le bateau avance, et notamment pour fournir à l'avion un vent relatif, un vent sur le pont, qui lui permette d'apponter dans de bonnes conditions.
Ça veut dire qu'ici, par exemple, les hélices du bateau peuvent pallier l'absence de vent qui est assez fréquente en Méditerranée?
Alors d'abord, il n'y a pas si peu de vent que ça en Méditerranée, il y en a quand même un petit peu. voire beaucoup parfois, mais on a la puissance qui nous permet de fournir, oui, par vent nul, les conditions nécessaires à l'appontage d'un avion. Fort heureusement, on a rarement du vent nul en fait, et donc tout le jeu va consister à trouver la bonne route qui nous permette d'additionner le vent vrai et puis le vent créé par la vitesse du bateau.
Dans les coursives ou au carré des officiers, on les repère à leur combinaison verte ou sable. Ce sont les pilotes. Ceux des Rafales sont divisés en deux flottilles. Ici, c'est toujours le vocabulaire marine qui prime, y compris lorsque cela concerne les avions. Pour les grades, par exemple. Dans l'armée de l'air, ce pilote serait lieutenant-colonel. Ici, il est capitaine de frégate.
On opère au-dessus du théâtre irakien principalement. Et à chaque fois que les troupes irakiennes et les troupes de la coalition ont besoin de nous, on peut être amené à aller les aider. Donc à chaque fois qu'il y a des opérations tactiques difficiles, à chaque fois qu'il y a des opérations majeures qui sont menées par les différentes troupes, eh bien on peut être appelé à aller au-dessus de ces zones.
La qualification est longue à obtenir pour pouvoir avoir le droit un jour d'apporter sur un porte-avions ?
Eh bien, il y a plusieurs étapes. La première, c'est... devenir pilote dans l'aéronavale. Donc c'est une formation initiale qui va durer de l'ordre de 2 à 3 mois pour sélectionner les gens. Ensuite, lorsque on est sélectionné pour la partie chasse, eh bien il y a toute une partie formation en France puis aux États-Unis qui dure au total de l'ordre de 2 ans et demi. Une fois qu'on a fini cette formation aux États-Unis, on va revenir en France, apprendre l'avion Rafale. Il y en a à peu près pour 8 mois. Et enfin, en rentrant à l'Andivisio, eh bien, il y aura la qualification sur le porte-avions. Et donc au total, il y aura de l'ordre de 5 ans.
Il y a eu des essais de drones à bord du Charles de Gaulle. Comment vous considérez, vous, pilote de chasse, l'arrivée des drones ? C'est une concurrence ?
Non, ce n'est pas une concurrence. On va dire que ce sont deux moyens qui sont différents et qui sont complémentaires. Et c'est notamment extrêmement notable sur ce théâtre où il y a beaucoup de drones au sol. Mais qu'est-ce qu'il voit ? Eh bien, il va voir une petite scène au sol filmée par cette caméra-là. Le pilote a une petite caméra équivalente avec les nacelles de désignation laser, une sorte de télévision qui lui permet de regarder au sol. Mais il a également ses yeux qui lui permettent d'avoir une vue sur 360 degrés. Et donc d'avoir une vision globale de la scène.
C'est un appontage, quand
même. C'est un appontage, tout à fait. Et d'avoir une vision globale de la scène plutôt qu'une multitude de micro-faisceaux. Et donc, c'est pour ça que les deux éléments sont complètement complémentaires. Et
aujourd'hui, mais à terme ?
À terme, ce sera, je pense, toujours valable pendant encore un certain nombre d'années. Il y aura toujours besoin de la présence de l'humain dans la chaîne avec, je dirais, son intelligence de situation qui est capable de s'adapter un petit peu à l'ensemble des éléments qu'il va rencontrer vis-à-vis d'un drone piloté par un opérateur situé éventuellement à plusieurs milliers de kilomètres.
Vous n'envisagez pas une fin de carrière, un joystick dans les mains, en train de piloter à 3 ou 4 000 kilomètres de distance un drone qui irait bombarder un terrain de guerre ?
Après avoir ressenti toutes les émotions qu'on peut avoir dans ce type d'appareil, je pense que je serais bien déçu si je pilotais un drone.
Comme dans toute activité aéronautique, les mécaniciens ne sont jamais bien loin des pilotes. Sur le Charles de Gaulle, on les trouve sous le pont d'envol, dans un hangar qui pourrait contenir la presque totalité d'un terrain de rugby. Ici aussi, l'activité et le bruit sont permanents.
Attention, vous mettez les pieds par contre. Le danger est omniprésent. Donc ce sont les hangars du porte-avions, avant et arrière, qui sont destinés à recevoir les appareils qui nécessitent une maintenance quelconque, un entretien particulier. Ils viennent là pour être régénérés. Chaque hangar fait environ 4000 mètres carrés. En l'occurrence, on a des Rafales, un Hawkeye à côté de nous, un autre dans le hangar arrière.
Puis aussi des hélicoptères, on a une alouette là.
Alors, vous avez une alouette, on a parfois les dauphins qui ont besoin aussi d'être régénérés, et puis le NH-90 qui est nouvellement embarqué avec nous. C'est un gros hélicoptère. Hein. Nous travaillons à la demande. L'objectif, c'est d'assurer la remise en état des appareils. Si ça nécessite qu'on travaille toute la nuit, on assure le travail toute la nuit.
Le bruit et l'agitation des hangars pour un endroit beaucoup plus feutré.
Il nous faut plusieurs minutes de déambulation dans les coursives du navire pour arriver devant une porte habituellement interdite à tout visiteur. Nous entrons ici dans le monde du renseignement.
Je suis le chef du service lutte au-dessus de la surface à bord du porte-avions Charles de Gaulle et je vous accueille maintenant dans centrale opération du porte-avions. La mission du centrale opération, c'est d'arriver à détecter, d'identifier tout ce qui nous entoure. En un mot, en fait, on essaye d'avoir une connaissance la plus exhaustive possible de l'environnement. Donc c'est l'environnement maritime, mais c'est aussi les avions, c'est donc les bateaux, les avions et les sous-marins éventuellement lorsqu'on sait qu'il y en a dans la zone. Donc pour ça, on a des radars, on a de la guerre électronique, on a des yeux, on a des caméras avec des zooms. Donc tous ces capteurs vont nous apporter de l'information. Donc ça va être sur un écran radar, ça va être un petit carré jaune. Et ce petit carré jaune, eh ben, on va essayer de déterminer ce que c'est, si c'est un bateau ou un avion, et puis de définir à partir de ce que c'est, ce que ça peut avoir comme conséquence sur notre action à nous.
On est dans une salle qui fait à vue de nez 150 mètres, 200 mètres carrés à peu près.
Oui, c'est à peu près ça.
Avec un éclairage très, très minimal. On est obligé de parler doucement parce que vous avez beaucoup d'opérateurs à des postes différents qui sont au travail en permanence autour de nous.
Oui. C'est ça ? Effectivement, bah, pour être bien concentré, vous verrez, tous les opérateurs ont un casque. Et donc tout le monde parle, personne ne crie dans le central opération. Donc ça permet de rester concentré sur son écran pour poursuivre la situation tactique. Et puis la basse luminosité du central opération, et ça favorise également l'aspect fonctionnel.
On peut faire un petit tour pour que vous nous montriez les différents types de postes qui sont
autour
de nous.
Ça, c'est le module surface. Donc l'opérateur qui est là va, avec le radar de navigation, essayer de détecter tous les bateaux qui sont sur l'eau. Donc ça, c'est l'information radar pure. Et à partir de cette information radar pure, donc on va lui donner une route et une vitesse qui est calculée par le radar. Et donc la route et la vitesse, plus d'autres informations, éventuellement du renseignement qu'on pourrait avoir et qu'on corrèle avec les informations en temps réel qu'on a, vont nous permettre de dire ça, c'est un bâtiment de commerce, c'est un cargo, on sait qu'il ne fait pas de trafic, je ne sais pas quoi. Et voilà. On l'habille, c'est-à-dire qu'on lui crée un petit symbole et on lui met une petite couleur, ce qui nous permet de voir très vite, hein, en un coup d'œil, ok, bah là il est tout gentil, lui il va pas nous poser de problème.
S'il n'est pas gentil ?
S'il n'est pas gentil, eh bien on va l'habiller différemment et puis on va avoir une attention plus particulière sur lui. S'il est un peu loin et qu'on a des doutes, ce qui arrive fréquemment, et bien à ce moment-là, on va utiliser d'autres capteurs qui peuvent être extérieurs au bateau, soit un autre bateau qui serait plus proche et qui pourrait nous donner une information, soit un moyen aérien, donc un hélicoptère ou un avion, qui pourrait nous dire « Ok, bah, je l'ai reconnu, je l'ai pris en photo, il n'y a a priori rien de suspect, pas de difficulté. » Ou bien, c'est un bâtiment militaire de telle nationalité, manifestement il va dans telle zone, ou bien il est en train de faire tel ou tel exercice, ce qui explique son comportement en ce moment-là.
La marine française est engagée au sein d'une coalition dans des opérations contre Daesh, qui a priori est une force qui ne dispose ni de moyens aériens, ni de moyens maritimes. Ça veut dire que le niveau d'alerte est moindre que sur un autre terrain.
Même si effectivement on peut raisonnablement penser que la menace contre nous, directement par Daesh, elle peut être limitée. Notre travail consiste à permettre de lancer les avions dans les bonnes conditions. Et pour ça, il faut qu'on maîtrise l'environnement, encore une fois, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité nautique, pour savoir s'il y a des bateaux qui vont nous gêner dans la manœuvre. Et si on a cette maîtrise de l'environnement, et bien à ce moment-là, on pourra conduire effectivement les opérations, lancer les avions dans de bonnes conditions pour la mission.
Commandant, adjoint, opération est prise de téléphonie au 32-3-6.
Il s'appelle le Hawkeye, l'œil de faucon. Cet appareil américain à deux hélices est surmonté d'un impressionnant radar qui le recouvre en grande partie. Il y a deux Hawkeyes à bord du Charles de Gaulle. Ils sont les yeux, les oreilles et aussi la bouche du groupe aéronaval.
Commandant, une fois qu'on est assis à l'intérieur de l'appareil, ce qui est remarquable, c'est que autant extérieurement, on a l'impression qu'il y a un volume énorme, intérieurement, il y a un tel volume d'appareillage électronique, on est extrêmement serré. Expliquez-nous un petit peu à quoi servent tous ces appareils.
On est vraiment dans un appareil militaire où tout a été optimisé pour le porte-avions. On va dire que c'est quatre missions essentielles. La première, c'est grâce au radar, c'est de voir loin et de détecter tout ce qui vole ou tout ce qui flotte autour du porte-avions ou autour des rafales s'il est en protection des rafales. Pour vous donner un exemple, si on mettait un Hawkeye au milieu de la France, il verrait tout ce qui vole et tout ce qui flotte sur la France entière, pour vous donner une idée d'ordre de grandeur. La deuxième mission, c'est de contrôler tout ce qui vole, justement, et tout ce qui flotte. Donc ça permet d'avoir cette notion de tour de contrôle au niveau sécurité des vols, et également cette notion de contrôler au niveau tactique militaire du terme. La troisième mission, c'est de coordonner. Pourquoi ? Parce que justement, on est dans le cadre de la coordination. Il faut que l'ensemble des forces convergent tous vers un même but. Et donc le but, c'est de coordonner les moyens pour que tout le monde tente vers le même but. Et cet avion, il en a les capacités, et c'est une de ses missions. Et surtout, le quatrième item de ses missions, c'est rendre compte par l'ensemble de ses moyens de communication, radio courte, moyenne, longue distance, moyens de messagerie et de radio satellitaire, il a la possibilité d'être en communication avec des centres qui se trouvent aussi bien sur le porte-avions, alors qu'on est à 500-600 km du porte-avions, ou des centres de contrôle en France, alors qu'on est au-dessus du théâtre syrien ou irakien.
Il y a les Russes qui sont présents sur le terrain. Est-ce que vous les avez détectés ? Est-ce que ça vous pose un problème dans votre travail à bord de cet appareil-là ?
Est-ce qu'on les détecte ? Oui, parce que c'est notre métier. Est-ce que ça nous pose des problèmes ? Non. On n'est pas coordonné entre nous, mais il y a des conflictions permanentes avec les aéronefs ou les bateaux russes.
Ce que vous appelez des conflictions, c'est-à-dire que chacun fait attention à ne pas piétiner les plates-bandes de l'autre, c'est ça ?
C'est ça, en fait, dans un rôle de sécurité des vols, en fait, oui, tout à fait.
Merci infiniment. On va essayer de quitter votre appareil sans trop casser les choses en passant, parce que c'est vrai que c'est extrêmement étroit. Non, dites-nous où on est là.
Alors, on vient de monter dans ce qu'on appelle donc la soute d'un hélicoptère Dauphin qui est en cours de maintenance.
C'est un appareil que vous pilotez vous-même ?
Alors, tout à fait. Donc, moi, je pilote deux types d'hélicoptères. Le type Dauphin, comme celui-ci, et le type Alouette 3, qui est un hélicoptère plus ancien, qui sont tous les deux à bord pour effectuer donc une mission qu'on appelle la mission Pedro.
Alors, en quoi consiste cette mission ?
Alors, la mission Pedro, en fait, c'est une mission de sauvetage. On est là pour assurer la sécurité donc des pilotes de chasse sur Rafale ainsi que les pilotes et les membres d'équipage qui sont sur Hawkeye en cas d'éjection ou de crash de ceux-ci dans un rayon assez court autour du porte-avions. Pour cela, on est en l'air avant le premier catapultage et on se pose après les derniers appontages.
Quand vous dites que vous êtes en l'air, vous êtes même au ras de l'eau, c'est même impressionnant de voir, on a l'impression de toucher l'eau quasiment.
Tout à fait, donc avec l'Alouette 3, on vole plutôt au ras de l'eau, le Dauphin lui se positionne un peu plus haut. Donc tout ça dans le but, si jamais il y a une éjection ou un crash, ce qu'on souhaite évidemment pas, nous on vient effectuer donc ce qu'on appelle un stationnaire, on vient se placer donc à la verticale du marin qui est à l'eau. On vient alors descendre à l'aide d'un treuil, on vient descendre donc un plongeur de la marine nationale qui lui vient examiner l'état de santé donc du pilote, savoir s'il est conscient, s'il est inconscient, s'il se plaint de douleur au dos, et en fonction de ça, on va le remonter pour être amené ici de nouveau d'une manière rapide à l'hôpital de bord.
On est sur un bâtiment qui officiellement s'appelle un porte-avions. Est-ce qu'il y a une hiérarchie, des rivalités ? Est-ce qu'il y a des surnoms que se donnent les pilotes d'avions par rapport aux pilotes d'hélicoptères et réciproquement ?
Alors, typiquement, donc déjà notre mission Pedro, en fait, elle fait référence au nom du premier pilote américain ayant effectué ce genre de mission donc sur porte-avions américain. C'est les premiers à avoir effectué un secours. Depuis, on garde ce surnom de la mission Pedro, qui fait référence à cet acte-là. Après, ce qui est intéressant pour moi aussi, j'ai retrouvé pas mal de mes collègues qui ont fait avec moi les sélections pour devenir pilote, qui eux ont choisi donc la voie des avions. Et ben, je les retrouve ici en tant que jeune pilote de chasse, en cours de formation également. Donc non, on ne va pas dire qu'il y a une rivalité. Après, si elle est vraiment bon enfant. Mais on n'a pas de hiérarchie vraiment donnée entre le top du pilote de chasse et en dessous le pilote d'hélicoptère.
Les femmes représentent 15% de l'équipage du Charles de Gaulle. Elles occupent à peu près tous les postes, toutes les responsabilités, à l'exclusion du pilotage des Rafales.
Bonjour, je suis donc le lieutenant de vaisseau Laurence. Je suis dans la marine depuis 25 ans maintenant. Alors, en termes de durée, c'est environ des missions de 4 mois. Mais le Charles de Gaulle, justement, a bien des espaces dédiés au personnel féminin. Alors, le personnel a des, par exemple, tout ce qui est hygiène, sanitaire, qui sont à code, des digicodes sur les portes. Donc, ça, c'est parfaitement cloisonné. C'est comme dans tout endroit où on travaille et où il y a effectivement des personnels féminins et masculins. Il faut travailler en bonne intelligence et... normalement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal.
Est-ce que c'est parce qu'il y a le hangar qui est en train de... La porte du hangar qui se ferme, là. Il y a un hélicoptère qui est en train d'arriver du pont sur le hangar. Voilà. Et nous sommes toujours face à cette immense ouverture dans le hangar, face à la mer, malgré ce que pourrait nous laisser croire le bruit ambiant.
Voilà, pardon. Donc le bruit, ça fait aussi partie de un petit peu l'intimité des gens. Donc effectivement, trouver un espace où on n'a pas de bruit, c'est aussi parfois très difficile à trouver. Alors pour ma part, moi, on a des règles justement de vie dans mon poste. J'ai la chance de partager la chambre uniquement avec une personne, donc c'est assez facile. On a des codes, par exemple, lorsque vous trouvez dans la chambre et que le rideau est fermé, là, on respecte l'intimité de la personne. Pour ma part, je vais sur Tribord Îlot, c'est juste à côté du pont d'Envol, le petit corridor qui mène au pont d'Envol. Là, la nuit, par exemple, c'est un endroit où c'est relativement calme. Et c'est mon endroit. C'est là où j'aime aller, justement, quand j'ai besoin de m'isoler et de ne pas avoir forcément des rencontres avec des personnes, parce que parfois, on a aussi besoin pour évacuer aussi, parce que, mine de rien, on doit s'occuper de nos personnels et il faut absolument trouver nous aussi des endroits où on puisse souffler, tout simplement.
En termes de relations familiales, on s'imagine que ça ne va pas être facile de passer 4 mois en mer.
Alors, oui, c'est pas facile, mais ça se planifie. Alors, pour ma part, j'ai des enfants qui sont grands. J'ai une fille de 17 ans et un petit garçon qui a 13 ans. Ils ont toujours connu leur maman un petit peu à bouger, d'une part pour des sélections de cours ou pour tout simplement des affectations. Ça m'est arrivé de m'absenter un an alors que ma fille avait 8 mois pour aller à un cours. Donc là, je rentrais le week-end, c'était une organisation. Ça se planifie, c'est effectivement pas simple, mais on ne coupe pas le contact. Hein. C'est pas parce qu'on est loin qu'on parle pas à sa famille, bien au contraire. Et je trouve même parfois des atouts à cet éloignement, parce que moi, mes enfants, ils ont été autonomes très tôt, et surtout, ils ont une ouverture d'esprit qui est sans doute plus grande que la majeure partie de leurs petits camarades. Maintenant, c'est toujours pareil, quand on part, moi je leur dis jamais, si c'est une mission qui est annoncée pour un mois, je leur dis jamais, je vais rentrer dans un mois. Je leur dis, voilà, je pars, vous savez que je pars tel jour, mais ça peut très bien durer dans le temps. On est aux ordres, donc si on nous dit tu restes, ben, on reste.
Et si vous n'étiez pas à Noël à la maison, avouez que ça serait difficile.
Ben, oui, c'est clair que c'est une période qui est plus ou moins difficile. L'année dernière, on était en mer. C'est clair que c'est pas facile, mais en même temps, on a eu quand même des choses. Personnellement, j'ai été très touchée, nous, parce qu'on a reçu des petits colis. Alors, ce n'était pas nos enfants qui avaient fait les dessins, mais c'était des petites écoles de Normandie et du nord de la France. Ça, franchement, c'était super. Alors, on sait pourquoi on est en mer, et si on sait l'expliquer, alors je pense que c'est gagné.
Grâce à ces deux réacteurs nucléaires, l'autonomie du Charles de Gaulle est en principe illimitée. Mais il faut nourrir cette petite ville que constitue le navire et son équipage. Il faut remplir les réservoirs d'avions et d'hélicoptères extrêmement gloutons. Il faut renouveler sans cesse le stock des pièces détachées sans oublier les munitions. Pour tout cela, un pétrolier ravitailleur vient régulièrement s'aligner sur le flanc du porte-avions.
On en est à 50 palettes in et on a commencé le transfert out.
On répond aux besoins des unités en leur apportant le matériel et le personnel dont elles ont besoin en permanence. Le matériel, c'est assez large, hein, donc ça peut être effectivement du rechange, ça peut être des munitions, c'est aussi du combustible, le carburant qui permet de faire voler les avions ou de faire avancer les bâtiments. Voilà, donc tout ça est organisé de manière assez précise, de manière à permettre les opérations du groupe aéronaval sans perturber la planification opérationnelle.
Quel est le domaine du groupe naval qui réclame le plus d'attention de votre part ?
Alors oui, le plus gros client, c'est quand même le groupe aérien embarqué. Il y a un énorme besoin en matériel. Donc en permanence, on a des demandes tous les jours, des demandes de matériel qui sont émises vers la métropole. Notre rôle à nous, c'est de les faire acheminer, donc les faire transporter entre la métropole et Chypre dans un premier temps, puis de les récupérer après par liaison hélicoptère entre Chypre et les bâtiments de la Task Force 473.
Quel type de matériel ça peut concerner par exemple ? Est-ce que ça peut aller jusqu'au moteur d'avion ?
Oui, ça peut être des rechanges toutes petites, hein, des écrous, des vis, mais ça peut aller aussi jusqu'au moteur d'avion, ça peut être une verrière pour un rafale, voilà, ça peut être aussi des grosses installations. Chacune est, je dirais pas aussi critique, mais peut être aussi critique finalement parce que une vis ou un écrou ou un moteur d'avion, ça rend effectivement indisponible un avion. Alors par chance, à bord du Charles de Gaulle, il y a de gros ateliers aéronautiques avec beaucoup de rechanges. Donc il y a toujours suffisamment de rechanges en stock pour pouvoir faire de la régénération. Il y a aussi des qualifications du personnel qui permettent de faire ces maintenances, qui sont d'assez haut niveau. Il y a en permanence des moteurs d'avion qui sont réparés à bord ou qui sont visités lors de maintenances préventives, c'est-à-dire des maintenances courantes qui sont prévues. Et effectivement, de temps en temps, au cours de mission, on fait venir un moteur d'avion, mais là, on n'en a fait venir qu'un pendant les trois mois de mission. Donc, ce n'est pas ce transport-là, finalement, qui est le plus prépondérant. C'est bien l'ensemble des petits rechanges qui vont permettre de faire de la maintenance, donc préventive si c'est des opérations prévues ou corrective si c'est des avaries, enfin, suite à des avaries qu'on n'en a pas anticipées et auxquelles il faut répondre. Ça fait du bruit. Alors ça c'est le bruit, ce qu'on appelle le chariot qui ramène la catapulte de l'avant du bateau vers la position près de l'avion qui va être catapulté.
Le dispositif se trouve au-dessus de nous, à quelle distance à peu près ?
Oh, c'est pas très loin, là c'est un pont au-dessus, à quelques dizaines de mètres. Là c'est le catapultage d'un avion, voilà. C'est la séquence de catapultage.
Salut au clairon du pont du porte-avions Charles de Gaulle et également du pont du ravitailleur La Marne. Un navire salue l'autre et les deux navires maintenant ont embarqué les câbles, les poulies, et ils se séparent et ils se retrouveront sans doute dans une dizaine de jours pour une nouvelle opération de ravitaillement.
Alors, en sécurité, j'écoute. En hôtel 0110, un fort dégagement de fumée. Est-ce qu'il y a une notion de victime ? D'accord, très bien. Si vous pouvez intervenir, vous intervenez, sinon vous vous mettez à l'abri des fumées. On arrive.
Capitaine Frégate Sébastien, je suis le chef du groupement de sécurité du porte-avions Charles de Gaulle depuis un peu plus de 2 ans.
Bonjour, je suis le capitaine de frégate Vincent. Je suis le commandant adjoint navire du bateau, plus communément appelé sur tous les bateaux le chef, celui qui s'occupe de toute la partie technique et mise en œuvre des installations du bateau. Je suis à bord depuis maintenant presque 2 ans.
Quels sont les soucis en termes de vigilance de sécurité sur un bateau pareil, qui est quand même assez gigantesque, qui recèle des installations techniques extrêmement variées et qui, en plus, bénéficie d'une propulsion nucléaire ?
Le porte-avions Charles de Gaulle, comme beaucoup de porte-avions, est un concentré de risques. On va retrouver à la fois un aéroport flottant, on va retrouver des avions qui partent quelquefois en mission, comme actuellement, avec de l'armement sous les ailes. On retrouve tout un système de propulsion avec des machines thermiques qui vont tourner. On va trouver un stockage de carburant, de munitions, un hôpital, des ateliers, avec tous les risques industriels qu'on pourrait imaginer dans n'importe quelle ville ou dans n'importe quelle périphérie. Donc par définition, on concentre la plupart des risques, mais qui sont maîtrisés.
D'où un entraînement quasiment au quotidien ici.
Oui, absolument. En fait, quasiment tous les jours, les marins-pompiers affectés à bord, mais aussi le reste de l'équipage, suite des séances d'entraînement collectif mais aussi individuel.
La spécificité de ce bateau, c'est la présence de 2 réacteurs nucléaires. Qu'est-ce que la présence de ces 2 réacteurs nucléaires nécessite en termes de vigilance ?
Alors, tout comme pour le reste de l'architecture du bateau, là encore, les chaufferies nucléaires qui sont embarquées à bord de ce bateau, ce sont des chaufferies nucléaires à technologie extrêmement éprouvée, qui sont d'ailleurs employées sur d'autres bâtiments de la marine. Donc avec une conception extrêmement sûre, redondante, robuste et fiable. Et en fait, il s'agit d'une machine à vapeur tout à fait traditionnelle. On fait travailler de la vapeur dans des turbines. Et en fait, à la place d'avoir un foyer au charbon ou au gasoil, vous avez un bloc qui s'appelle la chaufferie nucléaire. Voilà. Et ça, ça permet de chauffer un réservoir d'eau pour en faire de la vapeur. Et c'est cette vapeur qui travaille dans des turbines. Des turbines qui vont permettre de faire tourner la ligne d'arbre, mais aussi de faire tourner des turbo-alternateurs pour la production d'électricité, mais aussi propulser les pistons des catapultes pour envoyer les avions. Voilà.
Si un jour le bateau se retrouve pris sous le feu d'un avion ou d'un bateau ennemi, qu'est-ce qui peut se passer dans ce cas-là ?
À la conception, on conçoit le bateau pour qu'il puisse résister à des avaries de combat. Donc en fait, c'est déjà pris en compte à la base, si vous voulez. Et après, nous, la mise en œuvre de l'installation propulsive ne change pas que vous soyez au large de Toulon ou que vous soyez sur un théâtre d'opération. Les procédures sont exactement les mêmes. Donc on est extrêmement bien entraîné et habitué à conduire dans un contexte différent.
Commandant, le risque qui fait peur, entre guillemets, on n'avait pas la physionomie de quelqu'un qui a peur, mais le risque principal sur un bateau, c'est quoi ? C'est le feu ?
Oui, c'est le feu, oui, bien sûr. Le feu est quelque chose d'assez violent par définition. On s'y prépare, on n'est pas confronté tous les jours, fort heureusement. Et puis surtout, on est seul. Même si à bord, vous avez 1900 personnes et que tous les marins sont formés aux gestes élémentaires de sécurité, vous avez une centaine de spécialistes des marins-pompiers dans ces métiers, qui, quelquefois, ont été aguerris dans d'autres unités. Je vous citer un exemple, nous avons régulièrement des renforts de marins-pompiers de Marseille à bord qui sont des gens habitués à traiter des situations complexes sur la ville de Marseille, mais ça peut être ailleurs, des marins-pompiers à Toulon, etc. Donc, le feu est bien le risque majeur, mais on n'en a quasiment jamais, puisque la force d'un bâtiment de combat, c'est que chaque marin a en permanence tous ses sens en éveil. Lorsqu'il circule dans les couloirs, les coursives, comme on dit chez nous, lorsqu'il perçoit un bruit bizarre, lorsqu'il voit de l'eau s'écouler, lorsqu'il perçoit une odeur anormale, son réflexe naturel, c'est d'appeler le 18, le PC Sécurité.
Et vous venez de le dire, le numéro de téléphone du PC Sécurité ici au cœur du Charles de Gaulle, c'est le 18.
C'est comme 18. Comme à terre.
Le capitaine de frégate Alban et je suis le commandant de la 11e flottille de chasse embarquée, donc l'une des trois flottilles embarquées à crosse du porte-avions, deux de Rafale et une de Hawkeye, la 4F.
Vous êtes capitaine de frégate, ce qui dans l'aviation correspondrait au grade de lieutenant-colonel.
Voilà, tout à fait.
Vous avez sous vos ordres sans doute de très jeunes pilotes.
Oui.
Est-ce qu'il vous arrive d'avoir à gérer des problèmes avec des jeunes pilotes qui sont engagés dans des actions de guerre?
Alors, ça fait, en fait, comme ça fait 10 ans qu'on fait la guerre, en fait, quasi depuis que je suis rentré, les jeunes pilotes sont amenés tout de suite à voir la finalité du métier. Pilote de chasse, c'est pour 90% des gens qui arrivent, c'est une passion. Donc en fait, ils viennent pour voler sur un avion à la pointe de la technologie et qui a des performances inégalées dans le monde civil. On a eu le cas, moi j'ai connu au tout début de ma carrière un pilote qui a fait une formation avec moi et qui a décidé d'arrêter parce qu'en fait quand il est arrivé sur l'avion de combat, quand il dit maintenant faut tirer des obus, faut tirer des bombes, là, eh ben, moralement, ça lui convenait, il n'était pas capable. Il s'est dit non, ça va être trop dur pour moi, moi j'irai pas à la guerre. Là c'est pas possible, on forme des pilotes de combat. Alors maintenant en fait les jeunes ils arrivent très tôt, en général en plus on les reçoit à l'intermédiaire de leur cursus de formation en flottille pour qu'ils voient un peu, et comme on est en opération tous les 6 mois, bah en fait on prépare tout le temps la suivante. Donc en fait ils voient, ils savent qu'on va tirer des bombes, ils savent qu'à la clé potentiellement ils vont tuer des gens. Oui.
Donc là nous allons sur la passerelle rencontrer le capitaine de vaisseau Malbruno qui commande le Charles de Gaulle.
En route 259.5.
Alors, l'utilité d'un porte-avions, c'est de pouvoir engager depuis la mer, ce qui fait qu'au-delà des eaux territoriales, le porte-avions peut se positionner où il le souhaite et faire voler ses avions dans l'espace aérien international. Donc, ce que permet le porte-avions, c'est de mettre en œuvre de l'aviation C'est une capacité d'entrer en premier, c'est un outil diplomatique et stratégique à la main du président, où il peut décider du positionnement du porte-avions partout dans le monde, en étant capable d'atteindre à peu près 80% de la surface terrestre depuis le large, en fait.
Le dispositif aéronaval tel qu'on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire un porte-avions avec ses navires d'escorte, avec un sous-marin nucléaire d'attaque autour de lui, on ne va pas le revoir avant un certain temps, puisque votre bateau va regagner Toulon pour au moins 18 mois de grands travaux. Qu'est-ce que ça implique sur le plan de la présence militaire française ?
Il ne faut pas oublier que l'armée de l'air est là et présente en permanence sur ce théâtre, avec un niveau d'engagement extrêmement fort. Après, dans le jeu de l'entretien du porte-avions, et parce qu'on n'en a qu'un seul, effectivement, tous les 10 ans, il rentre en arrêt technique majeur. Cet arrêt technique majeur sera également une refonte à mi-vie pour remoderniser un certain nombre de systèmes du porte-avions qui vont lui permettre de lui donner un potentiel opérationnel pour les 20 prochaines années. Donc, effectivement, le porte-avions ne sera plus présent, mais il y aura toujours un engagement de la France, évidemment.
Une nuit noire est tombée sur le pont du Charles de Gaulle, qui n'est éclairé que par quelques petites lumières qui balisent la piste du pont d'envol. Et 5 heures environ après leur décollage, on assiste en ce moment même dans une nuit noire, mais un ciel bien étoilé, très venteux, une houle encore assez forte. On assiste au retour des rafales. Échoué pour celui-ci, il a préféré remettre les gaz et refaire une tentative. Il faut dire qu'il fait nuit noire, vraiment, et les pilotes, peu de pilotes sont qualifiés pour un atterrissage de nuit. D'ailleurs, on les appelle ici les hiboux. On a compris maintenant ce que l'expression « bruit d'enfer » signifie.
Nous dans le studio d'interception, Pierre Servant, spécialiste des questions militaires et stratégiques, qui publie Extension du domaine de la guerre chez Robert Laffont. Bonjour.
Bonjour.
On l'a vu, le Charles de Gaulle a participé plutôt activement à la lutte contre l'État islamique, mais l'obligation qui lui est faite d'abandonner le terrain pour un an et demi à cause de la révision obligatoire n'est-elle pas la démonstration que finalement on pourrait s'en passer ?
Alors certains pourraient dire cela, mais on pourrait dire également l'inverse, à savoir qu'il faudrait avoir un second porte-avions, peut-être pas à propulsion nucléaire, ça coûterait trop cher, mais en tout cas à propulsion classique. C'était le débat qui s'était posé à l'époque de la présidence Sarkozy, à savoir justement s'il ne fallait pas un deuxième porte-avions pour combler les trous liés à l'entretien régulier et puis aux entretiens de fond pour moderniser cet outil militaire majeur. Donc la question s'était posée, elle a été tranchée pour des questions budgétaires sous la présidence Sarkozy. Elle se pose à nouveau, je pense, aujourd'hui.
Mais pourtant, on a des aviateurs sur des bases proches du théâtre d'opération. Et puis, nos forces ne font que s'intégrer à un dispositif plus important, où finalement, ce sont les aviateurs et les pilotes de drones américains qui font le plus gros du travail, non ?
Alors, c'est vrai que pour ce qui est de l'opération Chamal, Mésopotamie, Levant, Irak, Syrie, c'est les Américains qui font 90% du job. Les Français se positionnent en numéro 2 ou 3 avec les Britanniques sur le volume de frappe, entre 8 et 10% des frappes selon les moments. C'est vrai, les aviateurs disent souvent qu'il n'y a pas besoin du porte-avions, puisque finalement, aujourd'hui, l'armée de l'air est capable de faire des raids aériens de très longue distance. Ils en avaient fait un, notamment, sur la campagne de Libye, Saint-Dizier, Benghazi, avec des ravitaillements en vol. Mais ce qu'il y a, c'est que le porte-avions, c'est autre chose que simplement une puissance, une capacité de projection militaire. c'est aussi un outil majeur de diplomatie. C'est un apanage diplomatique d'une grande puissance. Ça permet à la France de donner un signal important d'un engagement. Rappelez-vous, après les attentats du Bataclan, la France engage le porte-avions à propulsion nucléaire. Donc, c'est un signal important. Et puis, bon, les marins le soulignent, aujourd'hui, le porte-avions, avec le droit maritime, permet à la France d'être présente, en théorie, enfin, si elle le voulait, à proximité des côtes de 150 pays sur les 193 de l'ONU. Donc, c'est pas simplement une plateforme militaire, c'est, comme le disent les militaires, 45 000 tonnes de diplomatie française aussi qui se trouve projetée.
Diplomatie qui risque de prendre de l'importance. Non, l'élection de Donald Trump aux États-Unis laisse planer un peu un doute sur l'engagement américain. Qu'en est-il de la défense européenne ? Est-ce que c'est vraiment une chimère ?
Je serais tenté de dire oui, parce qu'on la cherche et on n'arrive pas à la trouver. Pourtant, il faudrait vraiment la bâtir. Je crois que compte tenu des évolutions internationales, je le dis souvent, je l'ai écrit dans le livre que vous avez cité, l'histoire est de retour. Je crois qu'il faut que nous prenions conscience de cet élément très fort. L'histoire est de retour. Dans les pays d'Europe de l'Ouest, nous avons cru finalement que l'histoire, la guerre, les grands tremblements étaient contenus par la diplomatie, les relations internationales. Je crois qu'on constate aujourd'hui, malheureusement, que ça n'est pas le cas. Et donc, la défense européenne, c'est un enjeu majeur. Mais il n'y a pas de défense européenne sans projet politique européen solide. Entre parenthèses, d'ailleurs, les candidats à la prochaine élection présidentielle se positionnent ou devront se positionner là-dessus. Mais pour revenir, pour faire la jonction entre défense européenne et porte-avions, au moment où il y a eu le débat sur le second porte-avions français, il avait été question à un moment de se demander si on ne pouvait pas le faire avec les Britanniques qui eux-mêmes avaient fait une parenthèse par rapport à leur capacité aéronavale et allaient s'engager dans la construction de deux porte-avions, le Queen Elizabeth et le Prince of Wales, qui vont sortir l'année prochaine et en 2018. Et à un moment, il avait été question de voir si Français et Britanniques ne pouvaient pas travailler sur un porte-avions commun. Ça a malheureusement été abandonné. Mais oui, vous avez raison, la défense européenne, le projet politique européen n'a jamais été aussi important aujourd'hui où vous avez une montée des nationalismes avec souvent des identités religieuses ou pseudo-religieuses. Et l'Union européenne, qui est un cénacle, justement, où les antagonismes se résolvent par la discussion, n'a jamais été aussi importante. Mais dans le domaine de la défense, malheureusement, il faut bien constater que ça a toujours été, comme vous le disiez au début, une chimère.
Merci Pierre Servant. Charles de Gaulle Terminus, un reportage de Pascal Dervieux, prise de son Arthur Gerbeau, mixage Claude Niort, réalisation Anne Lioro, assisté de Stéphane Combe et Zora Bensmaili. Un reportage à retrouver en images sur franceinter.fr et sur la page Facebook de l'émission. À la semaine prochaine.